Bonjour, sœurs et frères. Je crois qu'il y a beaucoup de sœurs qui viennent partir, là. Merci de votre invitation. Et heureusement, il fait un peu plus chaud ce matin. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui? Ça va? D'accord. Et je vais remercier d'en avance, quoi qu'il vaut peut-être mieux le faire à la fin. Mais je vais le faire avant quand même, par la foi. Je remercie les musiciens qui vont jouer les mélodies et qu'il y en a au moins une qu'elles ont dû apprendre, je crois, parce que je les ai entendues répéter. Voilà, le titre a été annoncé, trois Noël, trois messages. Bien sûr, c'est trois facettes du même message, mais nous allons le faire en chantant, et si ça me prend, je vais peut-être chanter une strophe d'un Noël aussi, hein. Alors, pourquoi chanter les Noëls? Pourquoi chanter les chants de Noël? Peut-être pour certains, ça c'est du folklore, hein, c'est du passé. Et maintenant, est-ce que ça peut vraiment parler aux gens? J'écoutais la radio hier, une station de jazz. Et beaucoup de publicité, c'était des mélodies de chants de Noël, avec des produits de toutes sortes. Ah, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Alors, quel est votre chant de Noël préféré? Ah. Quelqu'un veut dire? Minuit chrétien. Ah, il y a un autre, là, j'ai entendu. Voici Noël, ouais. D'accord. Ok, intéressant. Alors. Question, est-ce que c'est les paroles que vous connaissez par cœur ou la mélodie simple et souvent joyeuse, hein? Les mélodies de Noël sont souvent faciles à chanter. Ou c'est peut-être parce qu'il y a des souvenirs d'enfance ou un petit brin de nostalgie. Ou peut-être plus pratiquement parce qu'on sait le jouer, qu'on l'a appris. C'est une vérité fondamentale, en fait. On chante et on joue ce qu'on a appris. Donc, si on l'a pas appris, on sait pas. Donc, ce qu'on a appris, c'est quand même important. Alors, j'aimerais espérer que le texte, il soit pour quelque chose. Mais quel message s'en dégage? Faut être honnête. Un chant, que ce soit un cantique d'église ou un chant de Noël, c'est pas que le texte ou c'est pas que la musique, c'est en fait les deux ensemble qui font que nous l'aimons, que nous le chantons avec joie et plaisir. Si on change les paroles ou on change la mélodie, c'est difficile. Donc, je chantais la paix de Noël, parce que c'est pas simplement chanter, hein, on chante dans les stades de foot, mais pour soutenir son équipe. Chanter Noël, c'est quand même parce que, on y croit un peu, hein, quoique pas toujours, hein. Mais la paix de Noël, chanter, c'est aussi entendre le message de Noël, enfin, un message. Mais c'est aussi retrouver une certaine joie du salut en Jésus-Christ. Et cette joie, ça vient par le chant, mais c'est aussi une joie qu'on partage, hein. Et c'est ça, entre guillemets, la magie du chant. Il y a quelque chose qui dépasse la somme des efforts. Un plus, hein. C'est peut-être le Saint-Esprit, sinon peut-être pas toujours, c'est peut-être un bon animateur, mais en tout cas dans une église, j'espère que ce soit le Saint-Esprit, c'est pas exactement la même chose, hein. Alors, je vais commenter surtout trois Noël, et je vais en citer d'autres dans ça. Alors, on va parler de trois Noël. Mais sans tracer l'histoire des chants de Noël, parce que moi-même, j'ai découvert des choses en faisant cette préparation. on va pas faire l'historique, parce que sinon on sera là jusqu'à ce soir. Mais il y a quelques remarques quand même qui sont nécessaires. Les objectifs du chant ont varié dans l'histoire de l'Église. Bon, si vous chantez, je ne sais, mon beau sapin dans une maison de retraite, aujourd'hui, c'est pas exactement pareil que de chanter à l'Église, je ne sais pas, au peuple fidèle. Ça n'a pas le même objectif. Parfois, c'est pour ranimer la mémoire et puis chanter quelque chose que les gens connaissent, mais dans le contenu, le message est peut-être plus réduit. Alors, dans l'Église ancienne, par ça je veux dire du 2e au 4e siècle, on affectionnait des hymnes d'un fort contenu doctrinal. Ben, c'est parce que le climat était à l'hérésie, les gens définissaient ce qu'on croyait. Eh ben, les cantiques de Noël, comme les autres, participaient à former, à préciser ce que croyaient les chrétiens concernant Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, les chants très anciens sont d'une densité poétique et doctrinale qui est intenable pour nos oreilles, à nous. On pourrait continuer dans la même main, c'est le cas pour Ambroise de Milan, par exemple. Mais à la suite de cette première période, l'Église catholique, par exemple, célébrait surtout dans les chants de Noël l'incarnation de Jésus, Dieu fait homme, et le dogme de la Trinité. Bon, certains diront qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être s'y remettre aussi. Mais c'est notoire que le but dans tout cela, c'est surtout de transmettre une croyance. C'est de faire vivre, faire connaître une doctrine. Nous avons peut-être cette idée-là comme objectif des chants, mais ce n'est pas le seul, heureusement. Alors, au Moyen-Âge, on rencontre des musiques plus dansantes, plus populaires, qu'on chante autour du feu. Certaines mettent en avant, bien sûr, le rôle de la Vierge Marie, et on trouve ce qu'on appelle les laudes, c'est des chants de dévotion, plus calmes, ceux-là, des chants de dévotion à Jésus-Christ. Puis d'autres comportent de nombreuses strophes. Ah, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on les chantait soit en dansant, soit en procession. Donc c'est la fonction finalement qui a décidé la longueur des chants. Il y a tant de strophes, ça, donc là, ce n'est pas le contenu, mais c'est l'usage qui a déterminé la teneur du chant. Et puis ces strophes aussi, il y avait un refrain très simple. Et donc les choristes ou les gens qui déambulaient ou qui animaient, chantaient la strophe surtout, et après tout le monde reprenait le refrain. On connaît ça. Mais c'est une structure de chant qui n'est pas présente dans tout, mais c'est une structure qui favorise la participation de tous par le refrain et des gens qui chantent mieux dans les strophes. Et on le trouve encore ça dans l'Église catholique. Vous avez souvent un soliste qui entend la strophe et après l'assemblée reprend le refrain. Nous l'avons un peu gommé ça, mais on le retrouve aussi dans beaucoup de nos chants du 19e siècle, les chants un peu comme on a chanté tout à l'heure, « J'ai l'assurance de mon salut », ça pourrait être chanté, quelqu'un chante la strophe et tout le monde chante le refrain, parce qu'on le connaît, c'est ça qu'on connaît surtout, c'est le refrain. Alors d'autres chants servaient, certains pays, certaines régions chantaient des chants de Noël dans la rue. Pas forcément avec l'arme du salut au Moyen-Âge, évidemment, mais mais c'était les gens passaient d'une maison à une maison en chantant les chants pour les gens. Ça se fait en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis maintenant. Et ça finissait souvent chez les notables du coin. et où on l'espère y recevoir. Alors, selon un Noël du nord de l'Angleterre, on espérait recevoir, les pauvres paysans qui chantaient, espéraient recevoir des notables, un peu de votre fromage moisi et un peu de votre pain de Noël. C'est mignon, non?
Voilà.
Donc, les chants de Noël ne sont pas tous pareils, dans le sens que, si c'était pour un office dans un monastère, sûrement beaucoup de strophes, c'était un peu solennel. Mais si c'est pour la messe de minuit, ou le matin de Noël même, ben là, le chant, le contenu est peut-être, on va le voir, en fonction des lectures bibliques, et on peut s'interroger sur le fait qu'il y a certains chants, certains passages bibliques qui reviennent très souvent et d'autres non. Et ça se peut que c'est parce que c'était les passages qui étaient lus. Aujourd'hui, on est un peu plus libre dans les choix, où on peut l'être, mais c'est un détail en tout cas. Et puis, distinguant aussi, comme je l'ai dit, entre une sorte la ballade un peu folklorique et puis ce qu'on appelle le carol populaire, qui est presque dansant. Certaines paroles et musiques traditionnelles remontent très loin dans le temps, et on ne sait pas comment, à quel moment il faut les dater. Alors, il y a un chant, alors si vous connaissez le latin, c'est « Dulci Jubilo », qui se chante aussi en allemand. C'est assez curieux, parce que j'ai découvert ça. Le chant chante dans les deux langues, une ligne en latin et ensuite une ligne en allemand. Oui, connaître. Heureusement, nous le chantons en français. Hein. Il y a plusieurs. Alors ça, c'est un petit souci qu'on va voir. Il y a toujours plusieurs versions en français du même chant. Mais ce chant, moi, je préfère la dernière version de D'un cœur joyeux joué chanté. Et même, alors je vais fredonner l'air, et si vous le connaissez, vous le fredonnez avec moi, j'en suis sûr que vous le connaissez. Gloire au Dieu très haut, gloire au Dieu très haut. Non, vous ne connaissez pas? Ah, là, c'est un peu moyenâgeux, hein. Il faut un petit peu un tambourin, une batterie, à la limite. D'un cœur joyeux, joué, chanté, le Fils de Dieu nous est donné. Il est l'admirable, le roi né dans la pauvreté, trouveur incomparable, notre salut immérité. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu très haut. Ah ben voilà. Et voilà, bravo. Bon, je continue. Aussi du Moyen-Âge, là c'est un chant récent en français qui est très simple. Les gens aimaient beaucoup à la maison de retraite, à l'hôpital. Alors son contenu en anglais remonte au Moyen-Âge. C'était peut-être des moines qui le chantaient. C'était peut-être une danse au XVIe siècle. Et pourtant, avec le refrain et la musique, alors je sais pas si j'arrive à vous chanter le refrain, c'est une mélodie française. Ah, oui. Alors, je vais essayer pour vous. Je ne sais pas si j'arriverai avec le refrain, parce que là, c'est un peu plus difficile. Ding dong au plus haut du ciel. Toutes les cloches sonnent. Ding dong. Ding dong, annonçant Noël, ce joyeux chant résonne. Et après, Gloria, Hosanna in excelsis. Normalement, c'est deux fois le refrain, mais bon, je vous fais grâce. Mais c'est beau, hein. C'est très simple. Bon, la refrain, peut-être, faudrait le baisser un peu plus, je sais pas. Mais c'est de ding-dong. Alors, c'est curieux parce que les cloches qui sonnent, enfin, dans mon esprit, hein, c'est plutôt un chant de Pâques. Parce qu'en français, les cloches s'en vont à Pâques, hein. Bon, il y a des cloches partout, mais ça, c'est autre chose. Mais là, les cloches, c'est à Noël et c'est un chant joyeux. Et là aussi, c'est très très simple. Il y en a d'autres aussi, mais ça, c'est comme ça existe en français. Alors, on revient à la réforme. Et là, premier chant qu'on va chanter dans un instant. Vous pourrez vous lever tout à l'heure, si vous voulez. Il cherche à enseigner. Et il se reporte surtout, alors je vais vous faire deviner tout à l'heure peut-être, il y a trois versions en français, nous on va en chanter un. Alors la plus ancienne, c'est « Après la longue et sombre nuit, le ciel a rayonné ». On le trouve encore sur YouTube, hein, cette version. « Jésus est né, l'enfant béni que Dieu nous a donné ». Que Dieu nous a donné. Là aussi, il y a une strophe qui est intéressante, mais à travers sa pauvreté, il montre sa grandeur. Ah, ah. C'est pas ce, peut-être le plus facile, ça, à dire. Hein. Et puis, c'est plutôt pour la tante, mais la dernière strophe, des saints prophètes l'ont prédit, des justes attendus. Il a rouvert le paradis que l'homme avait perdu. Là, ça montre que c'est un chant plutôt ancien, parce que l'idée d'ouvrir le paradis, c'est pas dans les chants plus 19e siècle, hein, c'est plutôt au Moyen-Âge. Vous savez ce qu'on avait au Moyen-Âge? Il y avait pas tout à fait les arbres de Noël, hein, mais c'est des arbres avec des pommes, je crois, hein, enfin, José nous corrigera. Et ça rappelait la chute, l'arbre de la connaissance. Et dans les chants, c'est surtout l'arbre de vie qui est mentionné. Donc peut-être si vous aurez un arbre de Noël, peut-être pour une fois pensez à l'arbre de vie. Alors la version que nous allons chanter, qui peut-être s'afficher, donc sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort, voici la lumière aujourd'hui et la paix du Dieu fort. Je vous invite à lever. Donc c'est le prophète Ésaïe cette version.
Sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort, voici la lumière aujourd'hui et la paix du Dieu fort, et la paix du Dieu fort. Sa juste vérité.
Alors, de quel prophète? C'est l'ombre de la mort. Voilà, bon, c'est Ésaïe, hein? Donc, cette version-là. Bon, il y a un autre version en français aussi, mais on va passer. Alors, vous venez à Luther. Parce que Luther, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment quelqu'un qui a hérité du Moyen-Âge le goût pour le chant populaire. Il voulait que tout le monde chante, hein, aux tavernes, à la maison, à l'église, à l'école, partout, partout. Et il a écrit des choses magnifiques pour le chant d'assemblée. Et bien sûr, beaucoup ont connu un retentissement mondial, hein, grâce à la musique de Jean-Sébastien Bach. Et vous avez en particulier un de ses Noëls à lui, Von Himmel hoch, da kam ich her. Alors, vous le connaissez en français comme Dieu, le Tout-Puissant Créateur, c'est l'ancienne version. Mais c'est un, alors c'est dans l'oratorio de Noël, hein, de Bach, enfin, le texte, en tout cas. Parce que Luther, c'est à la fois la joie du salut, l'humilité du Fils de Dieu. Il est émerveillé que Jésus a pris notre humanité. Et il veut mettre en avant cette humilité, cet abaissement de Jésus qui vient nous chercher. Pour lui, c'est fondamental. Mais chez Luther, on trouve aussi des choses qu'on trouve un peu moins. Alors, j'ai déniché un Noël de Luther qui s'appelle, pourquoi, en français, « Pourquoi Hérode crains-tu tant ?» Alors, vous le connaissez peut-être pas, moi non plus, hein. Alors, juste pour ceux qui connaissent l'allemand, c'est « Was fürchte du Feind Herold sehr ?» Alors, en fait, c'est un chant qui était prévu plutôt pour après Noël. Et dans l'original latin, alors Luther ne connaissait pas cette strophe, mais que Yves Keller a traduit en français, il y a une strophe qui rappelle que la naissance de Jésus, ce n'est pas que de la joie. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le massacre des innocents par le roi Hérode. Alors, il y a très peu de chants qui parlent de cet aspect-là. Hein. C'est comme si on est un peu dans le déni, enfin l'oubli de ces aspects un peu sombres. Hein. Et donc, dans la strophe en latin, on a en français « Le cri des mères retentit pour les enfants qu'on leur a pris, que Hérode fit exécuter pour le Christ qu'il voulait tuer. » Et puis, bien sûr, le chant parle des rois mages, et évidemment, c'était prévu pour être chanté en janvier, hein, l'épiphanie pour les rois. Parce que Noël, ce n'est pas seulement le jour de Noël, vous le savez bien sûr, avec les 100 ans, le premier jour, 12 jours de Noël, hein, n'est-ce pas? Et jusqu'à l'épiphanie. Donc, là, ce chant a été prévu pour la fin. Et alors, après, à la fin du XVIe siècle en Allemagne, c'est là où, d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'il y a un petit glissement. Petit glissement. Alors, c'est un pasteur français qui a traduit ce chant de Noël en français, mais je vous dis, le titre allemand, ça se peut que vous le connaissiez quand même. Es ist ein Ross entsprungen. Alors, d'un arbre séculaire, ou d'un, littéralement, d'un rameau jailli. Alors, ce qui est remarqué, alors c'est beau, c'est poétique, surtout, je voulais la strophe française, mais le chant commence à imaginer Noël dans les rigueurs de l'hiver allemand. Et encore moins le 25 décembre, parce que pendant, c'est l'été en Australie, hein, 25 décembre, ou en Nouvelle-Calédonie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce chant qui montre ce glissement? Alors, je vous lis juste une phrase en allemand, je le traduis. Mitten im kalten Winter, vor der halben Nacht. Déjà, ça, vous sentez déjà même si vous comprenez pas ce que ça veut dire. Alors, en français, d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est le père de David, hein. Maintenant, on dit Jessé. C'est vrai que c'était pas l'habitude des protestants français, mais Jessé, oui, ben, c'est à cause des arbres de Jessé, hein. Mais c'est pas plus mal dans un sens. Mais d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Ésaïe, ah, c'est encore, oui, c'est encore le prophète Ésaïe. Oui, non, vous ne savez pas? Pas le chapitre 12 hein, qu'on a tout à l'heure, mais le chapitre 11. Donc, c'est vraiment les chapitres clés pour les chants de Noël, pour nous faire connaître ces prophéties. Alors, d'un arbre séculaire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ça veut dire que le Messie descend du père de David, enfin de Jessé. Hein. L'arbre séculaire, c'est la famille, l'arbre généalogique, hein, si vous. David, donc Jésus descend de David. Alors, en français, et sur le sol durci, dans la nuit, non, durant, pardon, ah oui, le français a ajouté une couche, hein, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit de la terre, une rose a fleuri. C'est beau, c'est poétique. Mais comme j'ai dit, là, il y a un petit glissement, on commence à être un peu dans le folklore. Hein. Noël, c'est en plein hiver, il n'y a pas encore la neige, mais ça va venir. alors, on va sauter un petit peu, donc, deuxième Noël, dans un instant. Première question, est-ce que c'est vraiment un Noël? Parce qu'en Angleterre, et même en France aussi, hein, les anglicans et les dissidents, en Angleterre, en tout cas jusqu'au 18e siècle, en France, c'est plutôt au 19e siècle. Mais on ne chantait que... Qu'est-ce qu'on chantait au culte jusqu'au 19e siècle? Ah, il connaît tout, hein. Mais c'est pour vous! Non, parce que vous imaginez pas. Hein. Nous, on chante des chants de toutes sortes, mais jusqu'au 19e siècle, en France, on ne chantait que des psaumes. Ben oui! Parce que, en théologie calviniste, il fallait ne chanter que le texte biblique. Que le texte biblique. C'est pour ça, on ne chantait que les psaumes et quelques cantiques bibliques. Les autres chants que j'ai cités étaient soit d'origine catholique ou luthérienne. Mais là, dans la sphère calviniste, on ne chantait que les psaumes. Et en plus, les puritains n'aimaient pas fêter le jour de Noël. Désolé de le dire, mais il fallait le dire. Alors, donc, ce chant, est-ce que c'est un Noël? Mais en fait, justement, c'est un psaume. C'est une paraphrase d'un psaume pour Noël. Ça se comprend, finalement, parce qu'il chantait pas. Il chantait que des psaumes. Et Isaac Watts, qui l'a écrit en anglais, est le premier le grand qui ouvre la porte pour mettre des paroles chrétiennes sur des airs de psaumes, et on parle des psaumes comme si on parlait de Jésus. Vous connaissez dans les ailes de la foi, Jésus, ton règne, sont pareils. Ben, c'est une paraphrase du psaume 72. Ici, c'est une paraphrase du psaume 88. Et là où le détail compte. Le psaume 98. C'est ça qui est intéressant. C'est le psaume qu'on chantait à Noël, le jour de Noël. Donc, il n'était pas idiot. Il a mis une autre musique avec un autre texte sur le psaume qu'on chantait habituellement à Noël. Donc, ça se comprend maintenant. On comprend pourquoi. Alors, le psaume parle du règne du Messie, le Seigneur dans la nature, dans le Messie, et invite la création, les arbres, les forêts à chanter. Ce n'est pas les arbres des forêts, pas tronc des mains, non. Mais c'est la même idée qui vient du psaume. Alors, on n'y penserait pas pour Noël. Hein. Et c'est une version qu'on connaît en Afrique à cause de la musique. D'ailleurs, alors je vous fais grâce des détails musicaux, mais juste ici quand même. Les premières, quatre premières notes, ça peut faire penser au Messie d'Handel. Da, 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 da. Hein? Réjouis-toi, lift up your heads, all ye gates. Voilà, c'est pareil. Donc ça peut faire penser à ça. Mais nous, réjouis-toi, voici ton roi. Bon, il y a plusieurs versions en français aussi. Hein. Alors, je vous dis quelques détails sur le chant, après on le chantera. Donc, vous avez la terre, vous avez la nature, qu'il habite dans nos cœurs, bien sûr, mais que la terre et le ciel chantent en cœur. Ok, ça c'est pas extraordinairement original, quoiqu'à son époque, oui. Mais les bois et la campagne, les torrents, la campagne tressaillent de bonheur. Vous voyez cette idée que la nature participe à la louange. Ah, on n'a rien découvert aujourd'hui. La nature participe à la louange. Ce n'est pas seulement les anges, ce n'est pas seulement les chrétiens ou les juifs, mais la création de Dieu participe à sa manière, à ce chant, dans l'espérance. Mais ce texte d'Henri Künzler est intéressant, et c'est peut-être pour ça que je le préfère qu'aux autres, qui sont moins bien à mes yeux, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Strophe 3. Aucun péché, aucun chagrin ivré dans son jardin, n'attristeront la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y aura de chagrin et le péché disparaîtront. Là, il voit de loin, hein. Il va loin. Mais c'est vrai que la venue de Jésus marque le tournant. C'est pas seulement dans les cœurs. Bon, n'attristant plus la terre, c'est peut-être un peu optimiste, mais dans le jardin, il y aura encore un peu d'ivraie dans le jardin du monde. Mais la terre espère que sa bénédiction apporte notre guérison de la maladie du péché, vous voyez, ça c'est très très Watts aussi. Elle espère. Alors quelle est la bénédiction de la terre? Et ça me fait penser pas à en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est pas seulement le sol, mais la terre. C'est pour ça que c'est bien, parce qu'il y a les deux idées. Toutes les familles de la terre seront bénies en Jésus, le descendant d'Abraham, qui accomplit ce qui était promis à Abraham. Donc là, vous voyez, c'est très Ancien Testament, ce qui n'est pas étonnant pour Isaac Watts, mais ça, si je peux me permettre, ça donne un autre son de cloche pour Noël. Alors bon, il était temps qu'on se lève et on le chante. Réjouis-toi, voici ton roi.
Réjouis-toi, voici ton roi, la terre a son Seigneur. J'ai vos qui trouvent un gîte, quand vos cœurs il habite, le ciel, la terre en cœur, le ciel, la terre en cœur, en vrai, je chante sa grandeur. Réjouis-toi, voici ton roi, la terre a son sauveur. Les bois et la campagne, les torrents, la montagne, tressaillent de bonheur, tressaillent de bonheur. Ensemble chante sa faveur. Aucun péché, aucun chagrin, ivré en son jardin, n'attristeront la terre, délivrée elle espère, que sa bénédiction apporte notre guérison. Sous son pouvoir, la paix revit, on voit mûrir ses fruits. Justice et délivrance, sagesse et connaissance, et tous sont étonnés, et tous sont étonnés de son inépuisable amour.
Merci. Voilà, pas ajouter les voix hein, aussi, mais là, bon. Alors, la terre espère donc cette guérison de la maladie. C'est une optique très optimiste, hein. En théologie. Parce que, à l'époque de Watts, vous savez, on était tellement convaincus que la mission de l'Église et que l'Évangile allait toucher le monde entier. Et c'était déjà le royaume quasiment sur Terre. Alors, en théologie, ça s'appelle post-millénariste ou ah, mais bon. Ce n'est qu'au 19e qu'on est devenu un petit peu plus pessimiste. Mais cet optimisme est là dans les chants, dans l'espérance que le monde entier va connaître Jésus-Christ. Alors, c'est ça aussi la joie de Noël, c'est dans ce chant-là, effectivement. Alors, 18e siècle en France, il y a, on peut pas tout dire, hein, mais bien sûr, les superbes mélodies pour les anges dans nos campagnes, vous avez avec le refrain, hein, qui, dans l'autre cantique tout à l'heure, appelait, hein, ça faisait penser à ça. Hein. Et ça, c'est typiquement 18e en France. Et je pense, même époque, mais je peux pas être sûr, hein, il est né le divin enfant. Hein, après tout. Alors, il y a une version catholique récente de Rosier et de Rimaud qui s'éloigne du texte traditionnel et que je l'aime bien parce que je trouve que ça reprend l'évangile de Jean. Jean, alors, je le lis la strophe parce que vous connaissez peut-être pas. Le sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. C'est clairement en référence à l'évangile de Jean, et je dis c'est assez accessible. Puis la quatrième strophe parle du retour de Jésus, ce qui est bien aussi, qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, qu'il revienne à la fin des temps et qu'on règne éternellement. Pardon. Bon, bien sûr, vous connaissez le texte traditionnel. Et les gens sont attachés au refrain traditionnel, là, on peut pas le déloger. Et je vais pas essayer, mais vous le savez, hein. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant, chantant tous en avènement. Ça, hein, incontournable, hein. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants, etc. C'est facile, hein? Et c'est beau, et c'est joyeux. Et aussi, ces paroles-là, bon, parce que depuis près de 4000 ans, là, ça nous met dans des chronologies, là. Mais là, le sauveur que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière, je crois que... Alors, quelqu'un tout à l'heure, c'est Autriche, 19e siècle. Alors là, c'est une tube, s'il y en a une, parce que ça a fait le tour du monde, hein. Voici Stille Nacht, Heilige Nacht. Voici Noël aux douces nuits, en français. Je crois qu'il y a aussi douce nuit, sainte nuit. Il y a deux versions, et puis dans le recueil évangélique pour lui seul, ils ont mis les deux, c'est amusant. J'ai aussi remarqué que dans la version française, protestante, on parle des rois mages. Mais dans l'original, en allemand, et en anglais aussi, on parle plutôt du couple Joseph et Marie. C'est un petit glissement protestant, je crois, dans le texte français. Voilà, allez, on va avancer, parce que ça leur tourne. Et oui. 19e siècle, la voici, la nuit de Dieu. Là, c'est un beau texte catholique, c'est une mélodie que tout le monde connaît, même en France. Hein. Et nous avons maintenant une version française qui, à mon avis, n'est pas extraordinaire. Enfin, il y a la version catholique, mais le texte n'a rien à voir avec l'anglais. Vous savez, le texte anglais a été très critiqué parce qu'il était un peu moralisant. Il fallait que tous les enfants soient doux, obéissants, surtout quand on les entende pas. C'est un peu ça l'idée. Hein. Obéissants surtout, doux, comme Jésus était bien sûr. Donc, vous voyez, pas de modèle plus exigeant. Hein. Là, ça a été un peu critiqué pour ça. Alors, on a une version française dans une humble et pauvre bergerie. Ici, dans les chants de plus haut du ciel, c'est le recueil de de 2012, je trouve qu'il y a beaucoup de brebis. Normal, vous allez dire, dans une étable, mais je sais pas, presque dans tous les champs, il y a des brebis. dans une humble et pauvre bergerie de la ville de la ville. Là, ça peut aller, là. Dans une humble et pauvre bergerie de la ville du roi David. J'ai entendu ça? La mélodie? Oui. Ben voilà, la version française. La version française. Oui. Il me semble que c'était... Il y avait autre chose à dire là-dessus. Ah non, c'est pas sur celui-là. Hein. Voilà. Mais on sait écrire aussi hein, des chants bien en français. Hein. Et notre Rubin Saïens, pasteur baptiste, alors je ne sais pas de quelle date c'est ce chant de Noël, qu'on a probablement oublié. Mais terre chante de joie, celui que Dieu t'envoie. Ah, vous n'avez pas oublié, ah, bon, c'est bien. Alors. Alors, typiquement de Saïens, on parle pas, enfin, l'accent est plus, non pas sur l'incarnation, mais sur la croix. Parce que vous avez la strophe 3, le sacrifice immense que tu dois achever. Oui, c'est là, c'est donc à la naissance que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur la croix. Un chant évangélique là, comme ça, on ne parle presque pas de Noël tout seul, il faut toujours qu'on jette un regard vers la croix. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui est bien, la deuxième strophe, la pauvreté, pour toi, pardon, ton Seigneur et ton Maître, pour toi voulu connaître la pauvreté. Ah, ça renvoie à un passage qui mérite d'être connu. Car voici, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. Ça, c'est un message fort, là, Noël. C'est pas la nature, donc, qui chante, et la terre, comme Watts. Ce n'est pas Ésaïe, 9, comme dans le premier cantique. Et puis, dans ce texte de Saïens aussi, cette crèche est un temple. Ça, c'est, fallait le dire, ça. Où la foi te contemple. L'idée de Noël, c'est aussi un apaisement, où on se pose, dans notre monde hyper cher, on se pose et on contemple. Et la crèche est un lieu où on peut contempler le Christ. Alors, bien sûr, ce chant est sur une mélodie très bien, et je fais un petit glissement polémique. On peut utiliser cette mélodie pour chanter au toit dans les bienfaits aussi. Bon, voilà. Alors, notre oui, parce que c'est une mélodie de Félix Duverny, c'est cette mélodie. Da, 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 da. C'est, voilà. Au toit dans les bienfaits. Terre chante de joie, celui qui... Très belle mélodie qui porte le texte. Alors, on arrive presque à la fin. Donc, dernier Noël, qui est un beau texte en français. Alors, en anglais, il s'appelle The First Noël. Il parle Noël. Et Noël, peut-être ça voulait dire nouvelle, ou on ne sait pas. Alors, le texte anglais, oulala. Il est un peu bizarre, parce qu'il fait arriver les bergers qui regardent l'étoile, qui se posent je ne sais où. C'est assez curieux. Et notre amie suisse, là, madame Girard Niara, a fait une traduction en français qui évite de faire des bêtises. Mais, et dans la dernière strophe, ah voilà, c'est ça, sa dernière strophe pourrait être pas mal, oui. Nous aussi, d'un même cœur, adorons le Seigneur, louons sa majesté. Voilà, je tique un peu, louons sa dignité, et chantons tous sa bonté. Par le souffle de l'Esprit, il créa terre et ciel, et nous donne en son Fils un salut éternel. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais la version que j'ai choisie, que peut-être vous connaissez moins, s'inspire des... Donc c'est aujourd'hui le roi des cieux, s'inspire des prières anciennes, parce qu'il commence par aujourd'hui, hodie en latin. Donc aujourd'hui un sauveur vous y naît, aujourd'hui c'est le temps de salut. Ce qui est intéressant, c'est la première strophe, il y a quelques phrases que vous risquez de ne pas voir la portée. Donc c'est au premier strophe, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. C'est ça qui est intéressant dans ce chant, enfin dans cette partie-là, parce que c'était la mission de Jean-Baptiste en Luc 1, de ramener les pères aux enfants, de ramener les gens à la foi d'Israël. Cet aspect-là aussi. Oui, Noël, c'est aussi un moment de réconciliation, de se retrouver avec ceux qu'on n'a pas vus peut-être depuis des lustres. Donc, le texte ici donc suit surtout l'évangile de Luc. Le titre Roi des cieux, bien sûr, vient des apocryphes. Et le but de la venue de Jésus est clair. Donc, c'est de ramener des gens, de les sauver. Et ça incarne le désir de salut qu'a le Seigneur. Et c'est ça le message de ce Noël. Le Christ est venu, Noël, Noël, chantant Jésus est venu pour sauver le peuple. C'est un chant carrément sur l'évangile de Luc. Donc, les trois chants. L'un, c'était Ésaïe. Deuxième, c'était psaume 98. Et le troisième, Luc. Et c'est pas un hasard que c'est souvent le passage de l'évangile qui est lu le matin de Noël. Et c'est un chant, donc, qui suit le récit, vous voyez, de Noël. C'est ça. C'est aussi une sorte de catéchèse chantée. Mais c'est un chant joyeux, donc vous pouvez vous lever et on va le chanter. Aujourd'hui, le roi des cieux.
Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulu naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Chantons nos remplit le ciel de lumière et de chant. D'une âme et d'ange blanc, louons Dieu et disons gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté.
Alors, on arrive, bon, une minute, hein, 20e siècle, je termine. Oui, que dire, il y a des chants en allemand, des canons, on n'y pense pas à ça. Chanter Noël en canon, parce qu'en canon, ça nous oblige à écouter les uns les autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour la musique. Hein. Et ça nous rappelle que nous formons un corps. Donc, chanter en canon, bon, je ne sais pas si vous les connaissez. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Très joli, ça, pour les enfants. Et sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça. Là. Alors, vous avez des chants plus récents de Noël Colombier, que vous savez, étaient passés au service de l'Église réformée. Par exemple, là, le texte, lui, c'est plutôt la ballade, hein, avec un refrain facile. Bon, par exemple, Dieu vient d'allumer un feu sur la terre. Là, c'est original, parce que c'est dans Luc 12, 49. Hein. La venue de Jésus, c'est pas seulement la gaieté, c'est aussi, hélas, ça apporte la division dans les familles, mais il y a un feu qui est allumé sur la terre. Waouh. Et il y a un autre chant de lui qui est pas mal, comme les mages. Comme les mages. Là aussi, pareil, bon refrain, une ou deux strophes un peu faibles, mais deux strophes, ce sont des chants faciles, donc bah, c'est un style, hein, années 60, 70. Et puis pour clore, bon, désolé, c'est en anglais, mais je pense à Graham Kendrick, qui a écrit finalement beaucoup de chants de Noël, hein. Et là, on revient un petit peu au but méditatif, au but doctrinal. Et donc, je vous cite le texte français, un peu moins bien peut-être que l'anglais, mais enfin quand même, c'est pas très... C'est pas... Au mystère infini. Alors, c'est une certaine densité sur le plan théologique, mais c'est assez poétique dans son style. Et puis, ça invite à méditer aussi. Bon, on va pas le chanter, mais on va terminer simplement avec ça. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie. Roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. La chute, elle est surprenante, et c'est quoi que c'est voulu, hein. Là, on est dans le Christ, qui est-il, glorieux, majestueux, devient homme, et s'abaisse jusqu'à laver les pieds des disciples. C'est vraiment une très, très belle parole. Donc, sur ça, je crois, notre petit tour est terminé sur les trois Noëls. Merci de votre patience et votre écoute. J'ai abusé un petit peu de votre temps.